Il me paraissait difficile, voire impossible, de ne pas m'arrêter avec vous sur la période que nous venons de vivre et sur ses conséquences qui sont encore loin d'être terminées. Comme tout épisode douloureux touchant l'humanité dans son ensemble ou dans sa particularité, ce temps est propice au questionnement, et ce que l'on soit chrétien ou non. Même si nous le verrons, le christianisme biblique véritable, l'Évangile, devrait nous immuniser contre cette tendance à demander des comptes à Dieu. La souffrance et son corollaire, le mal, quelle qu'en soit la forme, a toujours alimenté la réflexion humaine, qu'elle soit philosophique, morale ou spirituelle. Je ne pouvais donc pas ne pas prendre du temps avec vous sur cette problématique de la souffrance, faire comme si rien ne s'était passé, étant donné que c'est ce que l'humanité dans son ensemble expérimente encore au travers de cette pandémie, la première depuis la grippe espagnole ou la grande peste. Je vais donc tenter de nous faire réfléchir à ce sujet ô combien difficile et peut-être même à nous en libérer. Vaste programme qui nous prendra plusieurs messages. La souffrance et le mal nous assisteront bien entendu toujours, nous le savons, et c'est bien normal puisque nous avons tous un cœur. L'important est qu'il ne nous submerge pas et ne nous éloigne pas de celui qui a souffert pour nous. Paul ne dit-il pas dans sa lettre à l'église de Rome « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin de prendre aussi part à sa gloire. J'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. » La souffrance est partout. Elle est inévitable et nous bouleverse. Pendant cette heure que nous passons ensemble, plus de 5 enfants mourront, disparaîtront victimes de maltraitance et de violence. Ces chiffres sont de l'OMS et datent de mars 2015. Si nous passions toute la journée ensemble, ce n'est pas moins de 100 enfants qui mourraient. Bien entendu, le mal et la souffrance sont des phénomènes polymorphes, ils peuvent prendre bien des aspects, la mort des enfants n'en étant qu'un parmi d'autres. Chaque heure, des milliers d'hommes meurent d'un accident de la route ou d'un cancer, et des centaines de milliers de victimes collatérales de ces drames apprendront la mort d'un être cher. Chaque jour, l'équivalent d'une ville belge de taille moyenne disparaît de la surface de la terre, laissant dans son sillage des familles et des amis anéantis. Nous vivons plus ou moins dans l'ignorance de ces choses, tant qu'elles ne nous rattrapent pas à un niveau personnel. Bien sûr, parfois nous sommes sortis de notre sommeil par des catastrophes d'une ampleur peu commune, comme le tsunami en Thaïlande en 2004, ou le tremblement de terre en Haïti en 2010, ou la pandémie actuelle. Mais malgré le grand nombre de victimes générées par ces catastrophes, cela ne modifie pas vraiment le taux de souffrance, si je peux l'appeler ainsi. En effet, comme je l'ai dit, des dizaines de milliers d'individus meurent chaque jour dans des tragédies inattendues et des centaines de milliers de personnes de leur entourage sont accablées de chagrin et traumatisées pour un temps ou pour longtemps. Pourtant, la plupart d'entre eux ne feront pas la une des journaux, contrairement aux catastrophes de masse, tout simplement parce que la douleur et la misère sont la norme de notre monde. Shakespeare l'avait bien compris quand il écrivait « Chaque matin, de nouvelles veuves se lamentent, de nouveaux orphelins pleurent, chaque jour, de nouveaux accents de douleur frappent le ciel de plein fouet. » Le mal et la souffrance sont en fait si répandus que ces statistiques nous font à peine broncher. À ce sujet, l'anthropologue Ernest Becker évoque le danger que représente le déni de réalité devant la misère de la vie et le côté aléatoire de la souffrance. Lorsque nous entendons parler d'un drame, un mécanisme intérieur de défense profondément ancré en nous se déclenche. Nous nous disons que de telles choses n'arrivent qu'aux autres, aux plus démunis ou aux plus imprudents, qu'il suffirait peut-être d'un nouveau gouvernement avec une nouvelle majorité ou d'une réforme du système social pour y mettre fin. Ou alors nous nous fermons à toute mauvaise nouvelle, quelle qu'elle soit, venant du monde ou d'ailleurs, afin de ne pas être trop dérangé ou perturbé par la réalité du monde et de sa souffrance. Becker, notre anthropologue, pense qu'un tel raisonnement, une telle attitude, empêche de prendre la vie au sérieux, ou d'admettre ce qu'il appelle le vécu de la terreur de la création, de la vague de panique sous-jacente à toute chose. Cet état de panique, car c'en est un, émane de la mort, car elle est imprévisible et inexorable. On peut tenter de la nier ou de la fuir, c'est inutile est dommageable, car elle nous empêche de vivre vraiment, y compris dans les moments difficiles. Une thèse similaire a été avancée par une femme de lettres américaine, Anne Patchett, dans un article paru dans le New York Times au sujet du tireur fou de Washington. Celui-ci tirait au hasard sur des gens dans la rue, et le fait remonte à l'automne 2002. Voilà ce qu'elle écrit. Nous cherchons toujours à donner un sens au meurtre afin de le tenir à distance. Je n'ai pas le même profil que la victime, je n'habite pas dans la même ville, je ne serais jamais allé à cet endroit, ce type ne m'aurait jamais rencontré. Mais qu'en est-il quand il n'y a ni profil type, ni endroit, ni critère ? Où nous réfugions-nous pour trouver la paix du cœur ? Voilà la vérité. Retarder notre propre mort est l'un de nos passe-temps favoris, qu'il s'agisse de faire de l'exercice, contrôler notre taux de cholestérol ou avoir une mammographie, nous nous protégeons sans cesse contre la mort. Nous pouvons déterminer le profil de la victime et identifier ce qui ne correspond pas avec le nôtre. Pourtant, un sniper qui vise bien et appuie une seule fois sur la gâchette nous rappelle avec horreur que nous sommes mortels. En dépit de nos meilleures intentions, la mort reste pour une large part arbitraire et elle s'approche inexorablement. Je vous propose pour les semaines qui viennent de faire ce que Becker et Patchett nous proposent de faire, prendre la vie au sérieux et dès lors prendre la souffrance au sérieux. Car peu importe toutes les précautions nous prendrons et tous les efforts que nous ferons pour nous assurer une vie heureuse, peu importe à quel point nous travaillons dur pour réussir dans la vie, avoir une bonne santé et être en bon terme avec nos amis et notre famille, quelque chose détruira tôt ou tard fatalement ce bonheur. La vie humaine est irrémédiablement fragile et soumise à des forces impossibles à contrôler. La vie est tragique. Nous savons tous cela intuitivement. Les personnes confrontées à la souffrance et à la douleur apprennent à leurs dépens qu'il est impossible de leur faire face en comptant uniquement sur leurs propres ressources. Nous avons besoin de réconfort et de sens pour ne pas sombrer dans le désespoir. Et votre serviteur affirmera durant les prochaines semaines que ce soutien et ce sens ne sont que par le Dieu de Jésus-Christ. Pourtant, comme l'écrit Simone Veil, la souffrance nous fait croire que Dieu est absent. Elle a raison. Pour le non-croyant, la souffrance manifeste le silence de Dieu ou son absence. Et c'est même parfois le cas pour quelqu'un affirmant croire en Dieu. Cela aussi, nous en parlerons et nous tenterons de comprendre d'où vient ce phénomène qui fait douter le chrétien plus que l'athée lorsqu'il souffre. Cependant, dans le psaume 34, on trouve une autre réalité. C'est David qui s'exprime. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux dont l'esprit est abattu. Psaume 34, versets 18 et 19. On pourrait douter de ce que dit David si nous n'étions pas au courant des circonstances auxquelles il fait référence. En disant cela, il repense à une époque où il était en danger de mort et où tout semblait perdu. C'est en repensant à ce contexte qu'il écrit ces paroles. Non, nous dit David, même si Dieu semble absent, il ne l'est pas. Et j'espère qu'au cours de ces messages sur ce thème difficile de la souffrance, nous nous rappellerons tous que ce que dit David est vrai, parce que nous l'avons nous-mêmes expérimenté, parce que nous savons que c'est vrai, pour en avoir fait l'expérience. Le philosophe allemand Max Scheler dit dans son livre « L'homme du ressentiment » que je vous conseille tous, qu'un des plus grands services qu'une société puisse rendre à ses membres est de les aider à affronter les tragédies. Voici ce qu'il écrit. « Penseurs religieux et philosophes se sont également efforcés de donner aux hommes une interprétation de la douleur et de la souffrance qui leur en révèle le sens universel. Toutes les sociétés tentent plus ou moins de répondre à la question « Quel est le sens de la souffrance ? Ou quel sens puis-je lui donner ? Des sociologues et des anthropologues ont analysé et comparé les différentes manières dont les différentes cultures préparent leurs membres au deuil, à la douleur et à la perte. Les résultats montrent que dans ce domaine, notre culture séculière occidentale déchristianisée est parmi les pires et les plus faibles que l'histoire ait connues. Chaque être humain est guidé par une contrainte intérieure qui le pousse à comprendre ce monde comme ayant du sens et à se positionner en conséquence. ce que l'anthropologue Richard Schuder a décrit en disant « Les êtres humains ont apparemment envie d'être édifiés par leur malheur, ils ont besoin d'en donner le sens. » L'être humain a besoin de sens. Et dans nos sociétés occidentales où la recherche du sens a été remplacée par l'abrutissement matérialiste et la philosophie de la consommation, il ne reste que la souffrance pour sortir l'homme de sa torpeur. C.S. Lewis, qui avait lui-même été sorti de son relativisme spirituel par l'agonie de sa femme, a écrit « Dieu murmure au milieu de nos plaisirs, il parle par notre conscience, mais il crie dans nos souffrances. La souffrance est le mégaphone de Dieu pour éveiller un monde sourd. » Toutes les sociétés ne sont donc pas égales confrontées à la souffrance. Notre société occidentale moderne n'offre aucune explication à celle-ci et très peu de conseils quant à sa gestion. Il en résulte aujourd'hui que nous sommes plus choqués et détruits par la souffrance que nous l'ont été nos ancêtres. Nous avons gagné en termes de fuite, mais perdu en termes de sens. L'Europe médiévale voyait environ un enfant sur cinq mourir dans sa première année et la moitié décédait avant l'âge de 10 ans. Une famille moyenne perdait la moitié de ses enfants dans leur jeune âge et ils décédaient à la maison en présence de tous les membres de la famille, parents y compris. Il arrivait même qu'on les enterrât soi-même. La vie de nos ancêtres était bien plus douloureuse que la nôtre. Pourtant, d'innombrables journaux et documents historiques révèle que les rudes épreuves et le deuil troublaient bien moins nos aïeux que nous. Un spécialiste de l'histoire ancienne d'Europe du Nord a observé que cela déconcertait les lecteurs contemporains lorsqu'ils constataient que les hommes du XIXe siècle étaient bien moins craintifs qu'eux devant la perte, la violence, la souffrance et la mort. Selon un autre spécialiste, si nos ancêtres pouvaient nous voir aujourd'hui, ils seraient tout autant choqués que nous le sommes, mais de notre mollesse, notre mondanité et notre timidité. À cet égard, nous ne sommes pas seulement pires que les générations passées, mais également plus faibles aujourd'hui qu'une bonne partie du reste du monde, car notre société cherche à éviter la douleur à tout prix. Un médecin, le docteur Paul Brandt, un pionnier dans les traitements contre la lèpre, explique que les patients vivent aujourd'hui dans un confort qui n'a jamais existé auparavant. Et pourtant, ils semblent bien moins préparés à endurer la souffrance et bien plus traumatisés par ce qu'ils vivent. La question reste donc posée, pourquoi ? Pour répondre en quelques mots, les cultures autres que la nôtre ont fourni des réponses variées à la question « Quel est le but de la vie humaine ?» Certains disent que l'objectif est de mener une vie de la plus morale possible afin d'échapper au cycle dit du karma et de la réincarnation et être finalement libre de vivre un bonheur éternel, mais un bonheur désincarné. D'autres disent que nous devons tendre vers l'éveil spirituel. Il s'agit de reconnaître l'unité de toutes choses et de parvenir à la sérénité. D'autres préconisent une vie de vertu, d'intégrité et d'honneur. Certaines sociétés, enfin, enseignent que le but ultime de la vie est d'aller au paradis pour y vivre à jamais avec ceux que nous aimons et avec Dieu. Le point commun de toutes ces sociétés est que, malgré son côté douloureux, la souffrance peut être un moyen important d'accomplir notre but dans la vie. Elle peut jouer un rôle central en nous poussant vers nos plus grands objectifs. Nous pouvons dire, sans risquer de nous tromper, que la souffrance est un chapitre important de l'histoire de chacune de ces cultures. Notre société occidentale est différente. Elle est matérialiste. Autrement dit, dans un sens péjoratif, elle n'existe que ce qui existe et qui peut se toucher, se compter. Mais c'est aussi sur le plan philosophique affirmer que tout est matière, ou produit de la matière, et qu'il n'existe en conséquence aucune réalité spirituelle, ni Dieu créateur, ni âme immatérielle, ni valeur absolue. Ce monde physique est donc tout ce qui existe, et la limite de notre être. Dans ce contexte, le but de la vie est donc d'avoir la liberté de choisir la vie qui nous rend le plus heureux. Le problème, mais vous l'aurez déjà compris, c'est que la souffrance ne peut revêtir aucun sens au cœur de cette vision du monde, car elle provoque une coupure dans l'histoire de notre vie et ne peut donc avoir une quelconque signification. Il faut dès lors éviter la souffrance à tout prix ou la minimiser. Quand les Occidentaux sécularisés que nous sommes n'arrivent plus à le faire, ils se voient forcés d'emprunter les ressources offertes par d'autres modes de pensée comme le karma, le bouddhisme, le stoïcisme ou le christianisme, même si leurs croyances profondes concernant l'univers n'ont aucun lien avec ces différents courants de pensée. Autrement dit, ils ne sont en fait ni bouddhistes, ni hindouistes, ni stoïciens, ni chrétiens, et restent en fait fermés à ces modes de pensée. Cela les rassure simplement d'avoir l'illusion de développer quelque chose qui ne soit pas uniquement issu du monde matériel. C'est d'ailleurs toujours des versions très allégées et édulcorées de ces différentes approches religieuses et philosophiques que les Occidentaux s'adonnent, y compris pour le christianisme. L'élévation de la science au statut de religion a également impacté négativement nos sociétés occidentales. La science occidentale considère en effet que l'univers est naturaliste, n'existe que notre nature, notre monde non créé, alors que d'autres cultures voient le monde comme un mélange de matière et d'esprit. La pensée occidentale ne distingue que des forces matérielles dénuées de tout but et de tout sens. Dans cette vision du monde, ni le péché, ni une bataille cosmique, ni une force naturelle ne déterminent notre destin. Pour la société occidentale qui est la nôtre, la souffrance est donc un simple accident. Selon ce point de vue, la souffrance, bien que réelle, est donc en dehors du domaine du bien et du mal. Richard Dawkins, le célèbre biologiste anglais et athée célèbre, auteur de nombreux livres dont le fameux « Pour en finir avec Dieu », écrit dans un de ses livres « La seule pensée de la quantité de souffrance annuelle dans la nature ne peut que vous laisser hébéter. Dans un univers où les acteurs sont des forces physiques aveugles et la réplication génétique, certains vont souffrir, d'autres auront de la chance, et il n'y aura ni rime, ni raison à cela, ni aucune injustice. L'univers que nous observons a exactement les propriétés auxquelles on peut s'attendre s'il n'y a à l'origine ni plan, ni finalité, ni mal, ni bien, rien que de l'indifférence aveugle et sans pitié. En d'autres termes, l'univers est une immense et impitoyable roulette russe. » Vous comprenez pourquoi j'évoquais tout à l'heure le fait qu'un athée convaincu comme Dawkins aura moins de problèmes avec la souffrance en termes de questionnement qu'un chrétien à la fois superficiel. C'est cette vision qui prévaut aujourd'hui dans nos pays occidentaux, et ce, que l'homo occidentalus en soit conscient ou pas. Quand on pense que c'est en Occident que l'Évangile a le plus prospéré pendant des siècles, on peut se dire que le diable a mis le temps, mais qu'il a finalement fait du bon boulot. Il n'empêche que Dawkins lui-même ne peut pas nier que même si cette règle matérialiste prédomine dans nos sociétés, les hommes qui en font partie ne peuvent pas s'empêcher de se demander pourquoi ? Pourquoi la souffrance ? Manifestant par là un trouble intérieur provenant, à mon sens, du reliquat de l'image de Dieu en eux et de l'action intermittente de leur conscience éveillée par le Saint-Esprit. La souffrance n'a pas de sens et est très souvent injuste, et c'est bien ce constat à la fois spirituel et moral qui alimente ce questionnement. Dawkins le reconnaît d'ailleurs volontiers. La lutte féroce contre la souffrance vient de ce que les gens ne veulent pas accepter qu'elle n'ait aucun but. Elle est vide de sens, ni bien ni mal, parce que ces questions sont aussi vides de sens que notre univers. Et il ajoute que cette angoisse survient parce que, je le cite, nous ne pouvons pas admettre que les choses puissent être ni bonnes ni mauvaises, ni cruelles ni amicales, mais simplement insensibles, indifférentes à toute souffrance et sans aucune finalité. Alfred Edward Housman, un grand poète britannique du XXe siècle, l'exprime ainsi : car la nature, nature sans cœur, sans esprit, ne sait ni n'a cure. Et Dawkins persistait encore en paraphrasant cet auteur : l'ADN ne sait ni n'a cure, l'ADN existe simplement et nous dansons sur cette musique. La souffrance n'a donc aucun sens, ce n'est qu'un affreux contretemps. Pour Dawkins et ses nombreux adeptes, la vie est vide, inutile, futile, un désert d'inanité dépourvu de sens. Confrontés à la souffrance, nous ferions donc preuve d'infantilisme en cherchant des ressources spirituelles afin de trouver un but ou un sens à la vie. L'homme de foi que je suis dira lui que ce sens recherché de la souffrance au cœur de ce monde voué au mal et au péché provient de ce que Dieu est un Dieu qui donne du sens. Non, le ciel n'est pas vide, n'en déplaise aux athées de tous les poils, ou de tout poil plutôt. Et nous le verrons plus tard, non seulement le ciel n'est pas vide, mais Dieu n'a pas non plus créé en se retirant, en se désintéressant, en ne s'impliquant pas, n'en déplaise cette fois aux néo-stoïciens adeptes de l'immanence ou du naturalisme, mais en mettant du sens au travers d'un projet d'amour envers sa créature image. Ce sens aboutira malgré les souffrances et le mal, et malgré ce que peuvent en penser les chantres du déterminisme acharné. Parce que tout fait sens en Dieu. Nous devons prendre conscience, nous les chrétiens, de la bénédiction qui est la nôtre, de connaître le vrai Dieu et celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. Combien d'âmes tourmentées par cette perspective du rien, du néant, amenées à la vie au sens profond de leur être par notre Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. C'est grâce à cette réalité que de nombreux saints des temps anciens ont souffert les souffrances du martyr, les yeux posés sur leur Seigneur. C'est grâce à l'union de l'âme et de la grâce divine scellée par l'Esprit Saint que d'autres encore ont prêché et écrit malgré la maladie, la souffrance, le mal, la persécution et la mort. Par contre, si on accepte l'hypothèse séculière matérialiste d'un univers uniquement matériel, alors ce qui donne sens, ce qui donne un sens à la vie, sera forcément des biens terrestres ou des éléments de ce monde, tels que la sécurité, le confort et le plaisir. Seulement, vous le savez comme moi, il y a un hic. En effet, la souffrance bloque inévitablement l'accès à ces plaisirs de la vie. Soit elle les détruit, soit elle les compromet fortement. Comme le dit le Dr. Brand, déjà cité plus haut, dans son livre « Le don de la douleur », c'est parce que le sens de leur vie est la poursuite du plaisir et de la liberté individuelle que la souffrance traumatise autant les Occidentaux. Si tout ce qui m'intéresse sur cette terre, c'est prendre du plaisir et être heureux, toute souffrance sera considérée comme une calamité. La souffrance est interprétée dans notre société comme un revers de fortune. Celui qui souffre est victime d'attaques de force naturelle, sans caractère intentionnel. C'est rien à dire que la souffrance est distincte du cours de la vie. Il y a ma vie réelle et les plaisirs qu'elle me donne, et puis, à côté, il y a la souffrance. Mais ça, ce n'est pas la vie. Ce n'est pas ma vie. C'est tout au plus une sorte de bruit, une interférence dans le scénario de celui qui souffre. La souffrance dans ce schéma n'est en rien liée à une quelconque trame de la vie, sauf en tant que perturbation chaotique. Alors que dans le même temps, les cultures plus anciennes et les cultures non occidentales contemporaines ont toujours considéré la souffrance comme faisant partie d'une vie normale, comme un moyen indispensable de vivre une vie de qualité et de grandir en tant que personne et dans son âme. Par contre, le sens de la vie en Occident repose sur la liberté individuelle. Rien n'est plus important que le droit et la liberté de choisir pour vous-même ce que vous estimez être bon. Les institutions culturelles sont censées être neutres et sans valeur, c'est-à-dire sans le droit de dire aux gens comment vivre, mis à part celui de s'assurer que chacun soit libre de vivre selon ce qu'il ou elle juge satisfaisant et épanouissant. Or, si l'objectif d'une vie est d'être libre et heureux, alors la souffrance ne sert à rien. Dans cette optique, il faut l'éviter à tout prix, ou, si on ne le peut pas, gérer et minimiser autant que possible les émotions liées à la douleur et à l'inconfort. Cette pensée a même créé, à mon sens, une forme de christianisme. Je veux parler du charismatisme et de la théologie de la prospérité. Alors l'habillage est chrétien, c'est vrai, mais le contenu est clairement l'expression d'un matérialisme qui ne dit pas son nom. Si Dieu est Dieu, il doit obligatoirement me guérir, me protéger, m'aider à réussir ma vie. Dans cette forme de christianisme de plus en plus répandue, le chrétien est en relation avec un Dieu à son service exclusif, ne tenant compte que de son petit bonheur personnel. Dans cette conception, Dieu est là pour moi, à mon service. Il est là pour que je réussisse ma vie. L'un des chantres de cette pensée est Joel Osteen. Lisez son livre « Votre meilleure vie, c'est maintenant ». Si vous croyez cela, c'est clair que votre meilleure vie, c'est vraiment maintenant. N'espérez rien dans la suivante. Dans la théologie charismatique, la souffrance est, elle, l'expression d'une anomalie que Dieu, par amour, doit s'empêcher de corriger, ou alors elle est expression du péché qu'il suffit dès lors de confesser pour se purger de la maladie. Dans cette vision, que ce soit dans nos sociétés sécularisées ou au sein de nouvelles formes de christianisme, et nous en verrons d'autres au cours des messages suivants, on ôte à celui qui souffre sa part de responsabilité dans sa manière de répondre à la souffrance. Notre anthropologue de service, Richard Schuder, dit que derrière l'image de l'accident de parcours ou du hasard, si cher à Dawkins, se cache le fait de gérer la souffrance grâce à l'intervention d'agents qui possèdent un savoir-faire ou une formation spécifique à notre problème. Dans les cultures traditionnelles, les temps de souffrance sont considérés comme des périodes sombres dont il faut apprendre quelque chose en termes de patience, de sagesse et de fidélité. Notre société, quant à elle, ne voit la souffrance ni comme une opportunité, ni comme une épreuve, encore moins comme un châtiment. Et puisque ceux qui souffrent sont les victimes d'un univers indifférent, ils sont donc renvoyés à des experts, médecins, psychologues, sociologues ou services sociaux, chargés de les aider à soulager leur douleur. Notre société a plongé dans la confusion en faisant de la souffrance le domaine réservé des spécialistes. Chaque corps d'expert a sa propre idée de la marche à suivre pour les personnes dans la souffrance. Diplômé de psychothérapie et d'anthropologie, James Davis est bien placé pour en parler. Il écrit « Au cours du XXe siècle, la majorité de nos contemporains s'est trouvée dans une confusion croissante quant aux raisons de leur souffrance émotionnelle. Il énumère divers éléments à l'œuvre dans cette confusion. La psychiatrie biomédicale, les études psychiatriques, l'économie moderne, pour expliquer ceci. Puisque chaque spécialité est fondée sur ses propres hypothèses et poursuit ses propres objectifs, par le biais de ses propres méthodes, elles ont largement contribué à réduire la souffrance humaine à une cause prédominante, par exemple biologique, un manque de connaissances, un intérêt personnel contrarié. Comme le veut l'expression populaire, si vous êtes expert en marteau, tous les problèmes ressembleront à des clous. Il résulte de tout cela de l'incompréhension. Le modèle séculier place ceux qui souffrent entre les mains de professionnels, mais la spécialisation et le réductionnisme qui y est lié laissent en définitive les gens très souvent désemparés. Davis explique comment le modèle séculier encourage les psychothérapeutes à décontextualiser la souffrance. Autrement dit, il ne la considère pas comme une composante de l'histoire d'un individu et prennent ainsi le contre-pied des cultures anciennes. Davis renvoie à l'interview Dr. Robert Spitzer, diffusée en 2007 par la BBC, qui est vraiment très évocatrice. Spitzer est psychiatre et encadre le groupe de travail qui rédige en 1980 ce qu'on appelle le DSM, ou le DSM-3 pour être précis même, la troisième édition du manuel de diagnostic des troubles mentaux de l'Association américaine de psychiatrie. Le but de ce formulaire du DSM-3, on en est au 7 actuellement, et d'uniformiser davantage les diagnostics psychiatriques, autrement dit, de mettre plus facilement les gens dans des cases. Lors de cette interview sur la BBC, 25 ans après les faits, Spitzer reconnaît que rétrospectivement, il croit que son équipe a rangé à tort de nombreuses expériences humaines normales, telles que le deuil, la tristesse et l'anxiété, dans la catégorie des troubles mentaux. Vous avez bien compris. On traite des pathologies psychiatriques qui n'en sont pas sous prétexte que les gens sont dans le deuil, la tristesse ou anxieux. À la question posée par le journaliste, vous avez donc médicalisé une bonne partie de la tristesse humaine. Spitzer répond, je pense que nous l'avons fait dans une certaine mesure. Nous ne connaissons pas l'ampleur du problème, 20%, 30%, mais il est considérable. Davis explique ensuite comment le DSM s'est intéressé exclusivement aux symptômes. Les psychiatres n'avaient pas envie, je le cite, de comprendre la vie du patient ou les raisons de sa souffrance. S'il était vraiment triste, anxieux ou malheureux, on partit du principe qu'il souffrait d'un désordre quelconque qui devait être soigné. Il ne pouvait pas s'agir d'une réaction humaine naturelle et normale devant certaines conditions de vie qui avaient besoin d'être changées. Ce n'était pas possible. Les auteurs antiques, eux, considéraient que la souffrance était le symptôme d'un conflit entre les univers intérieurs et extérieurs d'un individu. Elle était le signal que son comportement et sa manière de penser avaient peut-être besoin d'être changés et ou que certains aspects de son environnement devaient être modifiés. L'accent n'était pas mis sur l'impression de mal-être ou la douleur, mais sur ce que ces éléments révélaient de sa vie et des solutions à mettre en œuvre. Alors bien sûr, pour poser une telle analyse, il faut des critères moraux et spirituels, ainsi que des jugements de valeur. Il faut être capable de discerner le bien du mal, les chemins de mort et les chemins de vie. Les experts formés dans des institutions laïques ont bien entendu du mal à entrer dans une telle approche, puisque rien n'est mal et rien n'est bien. On attend de ces experts qu'ils réduisent la douleur par des méthodes scientifiques variées, l'histoire du patient n'est que très rarement prise en compte. Davis conclut, et moi avec lui pour aujourd'hui, l'influence du manuel de diagnostic des troubles mentaux est l'un des facteurs qui ont propagé dans notre culture l'idée pernicieuse selon laquelle une bonne partie de nos souffrances quotidiennes est une contrainte préjudiciable qui doit être éliminée dès que possible. Cette croyance nous piège chaque jour davantage dans une vision du monde qui fait de toute souffrance une force négative. Personne n'aurait l'idée de changer l'ampoule du voyant clignotant sur le tableau de bord de sa voiture pour la remplacer par une ampoule défectueuse, tout simplement parce que ce voyant signalerait un problème et qu'on ne voudrait pas être au courant de ce problème, parce qu'on n'aurait pas envie d'être perturbé. Il semblerait pourtant que c'est exactement ce que font et ce qu'ont fait les sociétés occidentales. Amen.